vie après normale.
Et oui, car nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir pour cette quatrième journée de la radio Julien Bergeau, plus connu sous le nom de Jules, non pas celui vaguement connu pour ses albums de rap autotunés au flow un peu douteux, mais bien celui carrément célèbre aujourd'hui pour avoir imaginé l'excellente série de bande dessinée Silex and the City en 2009. Mais son expérience en tant qu'auteur de bande dessinée n'en commence pas moins bien plus tôt, puisque dès 2005, il publie sa première œuvre, Il faut tuer José Bové, une peinture assez drôle de la sphère altermondialiste. S'ensuit La Croisade s'amuse, une caricature de la famille Ben Laden, et plus récemment La Planète des Sages, ou encore Platon Lagaffe. Mais plutôt que de continuer à parler de lui à la troisième personne comme s'il n'était pas là, je me tourne vers Jules et je vous remercie une fois encore d'avoir accepté notre invitation au micro de Transistor pour Il y a une vie après normale, émission qui retrace le parcours d'anciens élèves de l'ENS Lyon. Jules, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes donc bien entendu un ancien élève de l'ENS, vous fontenaisien. Vous êtes rentré en 1995 et agrégé d'histoire. Vous avez été professeur d'histoire chinoise, puisque c'était votre domaine de spécialisation un temps, avant de vous consacrer à votre passion, le dessin. J'aimerais donc savoir tout naturellement, quand est-ce que vous est venue cette passion du dessin ?
En fait, déjà, c'est sympathique de me recevoir. C'est la première fois que je viens à Lyon. En fait, c'était un petit peu mythique, cette espèce de déménagement auquel j'avais assisté de loin, comme ça. Moi, j'ai fait toutes ces études-là à Fontenay. Donc, j'avais entendu parler du site, mais j'ai erré quelques temps pour me préparer, me chauffer à cette émission. Et du coup, c'était facile de se souvenir du fait que, en fin de compte, j'ai jamais cessé de dessiner et qu'il y a une espèce de continuité qui date de la maternelle au moment où tous les enfants dessinent, et juste à un certain moment, parce que je faisais des petits dessins, des petits journaux en CE1 que je les vendais à mes profs, à mes copains, je me suis rendu compte que c'était un levier extraordinaire à la fois sur le monde, sur les gens avec qui on pouvait vivre, et tout au long de mes études en histoire, même au moment où je préparais des concours, je continuais à dessiner. Et d'ailleurs, il y avait un système, je ne sais pas s'il y a toujours ce jargon-là, on disait des PQ, c'est-à-dire faire des fiches de livres au moment où on prépare les concours, la grègue notamment, chacun devait ficher un certain nombre de livres de différentes spécialités, et moi j'étais exempté de cette corvée-là parce que je faisais aussi des dessins pendant les cours marrants, et donc je troquais mes dessins sur le programme d'agrègue en échange des fiches fastidieuses sur des bouquins de 3000 pages sur l'épigraphie médiévale.
Donc dès le plus jeune âge, en fait, il y a ce médium du dessin plutôt qui vous a permis en fait de faire des choses que les autres ne pouvaient pas faire. On en parlait un petit peu tout à l'heure, il y avait cette idée que vous pouviez rester avec les gars cool à l'école grâce
au dessin.
C'est ça,
j'ai pas eu besoin de fumer à 13 ou 14 ans ou de faire de la mob sans casque. J'étais admis automatiquement chez les cool grâce au dessin. Donc ça m'a épargné un certain nombre d'épreuves initiatiques que j'aurais peut-être pas réussi à franchir.
Donc le dessin, une sorte de grande continuité qui vous a toujours ouvert plein de
portes.
Voilà,
puis ça permet de se rendre un petit peu intéressant auprès des filles. C'est une alternative aussi au biscotto ou à la violence pure.
Je devrais me mettre au dessin, je vais y réfléchir.
Vous avez des cravates.
Oui, enfin, c'est les filles, moi, ça va, vous avez trouvé les bons mots. Alors, plus sérieusement, je suis très content de vous avoir parmi nous, car personnellement, je ne suis qu'un lecteur très occasionnel de bande dessinée. C'est regrettable d'ailleurs, il faut que je comble cela. Et j'aimerais savoir concrètement comment se passe en fait la phase d'élaboration d'une bande dessinée. Qu'est-ce qui vous vient en premier ? Parce que, donc, par exemple, si on prend le cas de Silex and the City, vous faites à la fois, vous faites tout, en fait. Vous faites le scénario, vous faites le dessin, vous supervisez un petit peu le dessin animé, puisqu'il y a aussi tout un volet dessin animé que nos auditeurs connaissent. Et donc, qu'est-ce que vous faites en premier ? Comment vous vient une idée ?
En fait, moi je viens du dessin de presse, c'est quelque chose qui est d'abord extrêmement éditorialisé, donc je fais partie de cette famille de dessinateurs un peu verbeux, avec énormément de sous-textes dans les gags, beaucoup de références, et donc évidemment c'est quand même un humour de scénario, un humour d'histoire, Donc, il faut avoir des bonnes histoires, des bons gags. Je fais pas partie de la famille des grands graphistes. Et voilà, ce que je fais ressemble ni à Bilal ni à Moebius. Mais dans le registre de l'humour, c'est pas non plus Cabu ou Luz qui, eux, ont une virtuosité du trait. Mais ce serait plus, voilà, vraiment des... moi, je sais que j'ai une familiarité avec les Simpsons, avec Harry Larson ou avec Volinsky, par exemple. C'est ces dessinateurs qui ont des traits un peu plus jetés, un peu plus simples, vraiment au service d'un propos, au service d'une histoire. Donc, dans la série Silex and the City, comme dans la plupart de mes albums ou des séries animées, c'est ça qui est quand même la colonne vertébrale, malgré tout.
D'accord. Alors, combien de temps ça vous prend de faire, par exemple, une BD en termes de travail?
En fait, ça dépend à chaque fois des registres. Silex and the City, maintenant, c'est une série, donc il y a des personnages établis, il y a plein de petits réflexes, tout un monde existant qui suffit juste de mettre en branle. Donc, ce qui me permet de faire à peu près un album de Silex and the City chaque année, ce qui est assez rapide, 6 mois d'écriture et 6 mois de dessin, quoi, à peu près.
Vous ne faites que ça? Vous suspendez les autres projets?
Et non, et en parallèle, il y a toujours d'autres choses. Donc, par exemple, la série que vous évoquiez, La planète des sages, là, les deux tomes, ou Platon Lagaffe, qui sont des albums sur le thème de la philo, des espèces d'encyclopédies philosophiques, comme c'est un peu satirique, là, nécessite justement un travail en amont aussi. Déjà, je ne suis pas philosophe de formation, donc de plonger dans des textes ou redécouvrir ou découvrir des auteurs, et ça, il y a une sédimentation qui nécessite du temps. Donc ça, pour chacun de ces genres d'albums, il faut 3 ou 4 ans au moins
entre la genèse de l'idée et la réalisation finale.
Voilà. Okay. Donc ça prend un petit moment quand même.
Et alors, peut-être que on va se pencher, peut-être si vous le voulez bien, un petit peu sur Silex and the City, puisque c'est un petit peu votre vaisseau amiral quelque part. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu donc de ce qui s'y passe, de cette histoire, donc de cette famille en fait préhistorique, donc au nom pourtant très moderne, donc Spam et Blog donc sont les parents, Spam est la mère, Blog le père, et URL et Web sont donc les deux enfants, un garçon donc plutôt ado révolutionnaire qui expérimente des choses, voilà, donc qui va dire qu'un autre mode de nourriture est possible, et une adolescente du coup avec un copain de très bonne famille, donc qui détient le volcan du coin. Et alors, je vais peut-être arrêter, je vais vous laisser parler, ce sera plus simple.
L'idée était, à travers une série et en utilisant des personnages justement de générations différentes, avec des caractères un petit peu singuliers et bien marqués, de créer une espèce de miroir à notre société, et encore une fois, de parler d'aujourd'hui, mais par le prisme, en l'occurrence, de l'âge de pierre. On est en 40 000 avant Jésus-Christ, et ça donne finalement un recul très très efficace pour mettre en scène des choses très contemporaines, sans justement tomber dans le piège de celui qui a le nez dans le guidon et qui commande vraiment à chaud l'actualité. On peut rester quand même avoir cette distance critique, parce que justement on est dans une espèce de péplum en costume, parmi les stalagmites, entouré de tigres à dents de sabre, ça marchait pas mal. Et donc le côté antiphrase de la famille dot-com, qui est justement précisément une famille qui stagne et qui veut absolument pas décoller et adhérer à la théorie de l'évolution, raconte aussi quelque chose de notre époque, qui a une espèce de culte de la modernité, de la consommation, du progrès, et qui, singulièrement, a aussi l'impression de rétro-pédaler ou de juste pédaler dans la choucroute quand on, voilà, on considère les choses les plus importantes, je dirais, de l'existence.
Et justement, en lisant certaines de vos interviews sur Internet, j'ai trouvé cette citation de vous qui m'a un petit peu surpris, d'autant que je me familiarisais avec votre biographie. Donc je cite « Être prof a été une véritable souffrance pour moi ». Ces mots de souffrance, c'est un mot assez fort.
Oui, bon, ça c'est un truc de journaliste, j'ai dû dire ça comme ça en blaguant, hein, et une fois que c'est écrit, on voit plus que je faisais des blagues. Mais non, mais c'est vrai que j'étais pas totalement adapté au travail pédagogique, dans la mesure où j'aime pas du tout répéter. Et c'est-à-dire que voilà, la redondance pédagogique du cours me rendait chèvre, et le fait de faire deux fois un cours à des élèves différents, ça me paraissait complètement incroyable. J'ai pas l'impression que je serais capable de faire deux fois le même album de bande dessinée. Mon travail de transmission à travers le dessin, à travers voilà, la comédie telle que je la pratique maintenant, me permet de ne pas répéter les choses. C'était ça principalement. Et il y avait aussi la dimension, voilà, étant issu de parents profs, avec un frère prof, etc. Donc vraiment enfant de mammouth. Je voyais à peu près les tenants et les aboutissants de ce travail. Je me rendais compte qu'il me manquait cette qualité déjà de patience qui est très importante. Et du coup, étant prof impatient, j'étais probablement pas capable de transmettre réellement les choses très bien. Et peut-être je le fais différemment et mieux avec mon dessin.
Alors, on va peut-être écouter un premier extrait donc sélectionné, qui en fait est un extrait donc de l'adaptation donc de Silex and the City, qui est diffusé sur Arte. On va écouter.
Nous sommes en moins 40 000 avant Jésus-Christ. Toute la planète semble obéir aux lois de la sélection naturelle. Toute, non, une vallée résiste encore et toujours à l'évolution.
Canidé prédateur de petite taille, le teckel est le compagnon favori des mammifères de moins de 50 ans, mère au foyer. Avant de sortir en récréation, je ne serai pas là pendant un mois. Alors à partir de lundi, c'est un remplaçant qui assurera le cours de préhistoire géo. C'est lui qui poursuivra la leçon sur les animaux en voie d'apparition.
Alors, ça y est, tu pars en congé formation?
Bah ouais, je suis trop contente. Un mois d'initiation au sacrifice rituel avec des stages de gastronomie et cannibalisme, ça va me changer du collège Françoise Dolto.
Ou pas. En tout cas, ce bloc doit être vert de jalousie.
Ça va les plagistes?
Ça a été ton cours de chasse? C'est moi qui récupère les 4e B cet après-midi.
Deux morts, la routine. Dis donc chérie, j'ai vu la tête de ton remplaçant. C'est un gamin.
On m'a dit ça, oui. Mais tu sais qu'il a fait Néandertal Sup. Moi, c'est un truc, il faudrait que des archéologues m'expliquent un jour comment d'aussi grosses têtes peuvent loger dans d'aussi petites boîtes crâniennes.
Il paraît qu'avant d'arriver chez nous, il était au collège Saint-Exupéry.
Saint-Exupéry? Oula, c'est du Rupin rupestre là-bas.
Ah, monsieur Dotcom, monsieur Dotcom, là, y'a Kevin qui est en train de manger un lémurien,
c'est
un peu.
C'est sûr qu'à côté, le collège Dolto, c'est la planète des singes.
Bonjour les enfants. Comme vous le savez, je suis le remplaçant de madame Dotcom qui sera absente pendant quelques semaines.
Ah, j'y crois trop pas. Lorsqu'ils nous ont envoyé comme prof, et trop habillé comme un pipette.
Je suis sûr que nous allons faire ensemble un travail formidable. Nous allons poursuivre le cours sur les animaux en voie d'apparition. Alors, la leçon numéro 5 se rapporte à un sujet fort intéressant, les ovins de nos régions. Je vais faire venir quelqu'un au tableau. Voyons voir. Tiens, toi, comment t'appelles-tu?
Il s'appelle Brian, monsieur.
Très bien, Brian. Alors, tu vas venir par ici, s'il te plaît. Dessine-moi un mouton.
C'est notre faute. On aurait dû vous prévenir pour Brian.
Ne jamais, jamais appeler Brian au tableau.
En zone d'évolution prioritaire, on a pas mal de cas sociaux. Mais là, vous êtes vraiment tombé sur le maillon faible.
Ce gamin-là, ça fait 3 fois qu'il redouble son quaternaire.
Mais je lui ai juste demandé de dessiner un mouton.
C'est cela, oui. J'ai un peu l'impression que vous venez d'une autre planète. Vous savez, apprivoiser des renards, c'est facile, hein. Par contre, des adolescents préhistoriques en pleine puberté, c'est une autre paire de manches.
Je vais demander une habitation au 21e siècle.
Au 21e siècle? Mais c'est 10 fois pire!
Alors bon, c'était un épisode entier, je n'ai pas résisté, je voulais couper, mais je me suis dit, qu'est-ce que je vais couper? Donc du coup, j'ai dit, je vais tout laisser.
Alors vous avez, j'espère que vous avez remarqué que c'était un petit peu une thérapie pour moi, parce que c'est moi qui joue le rôle du petit prince. Oui. C'est moi qui fais la voix.
Et justement,
On a toujours plein d'invités prestigieux, mais de temps en temps, on le fait aussi un petit peu côté PME familiale.
Alors, mais du coup, PME familiale, ou est-ce que c'est... Alors, c'est pas du vécu. J'espère qu'en étant prof de chinois, chargé de cours de chinois, d'histoire chinoise à l'école normale supérieure, on vous a pas cassé la gueule avec une grosse massue quand on vous a demandé de dessiner quelque chose au tableau. J'ose espérer, en tout cas. Ou alors, l'école a bien changé depuis Fontenay. Mais... qu'est-ce que votre expérience familiale de prof a joué? Pourquoi avoir choisi plus généralement les profs? Les dot-com sont un couple de profs.
Ah bah on tape jamais aussi bien que sur ce qu'on connaît et d'où on vient. Donc finalement, les contradictions intrinsèques, un petit peu de la bonne conscience des profs, du public, qui mettent leurs enfants dans le privé, etc. Et puis de voilà, ces contradictions-là qui sont amusantes et qui... qu'on vit chacun, et assez drôle à mettre en scène. Et comme je connaissais cette ambiance de salle des profs si particulière et ces thématiques-là, ben, ça a été un peu la base. Ensuite, on a énormément rayonné parce que Silex and the City, ça parle des traders, de la Fashion Week, de l'armée, de tous les domaines en fait qu'on peut imaginer qui sont mis en scène. Mais c'est vrai que c'est à partir autour, rayonnant autour de cette famille de profs.
Alors, deuxième point à partir de cet extrait que je trouve intéressant, c'est au début je me suis dit bon, vous déplacez en fait vous parlez du 21e siècle mais en prenant un cadre historique et temporel, enfin préhistorique du coup, mais en fait c'est pas tout à fait ça non plus, parce qu'il y a une terrible actualité, c'est-à-dire non pas seulement par l'usage d'anachronismes, c'est-à-dire qu'on a l'impression que la temporalité s'écrase complètement et complètement à plat, puisqu'on a en fait des allers-retours dans le temps, c'est-à-dire que les personnages sont conscients du futur et le passé est très présent. Qu'est-ce que ça vous permet de raconter quoi ?
Bah, c'est efficace en fait. Je fais primer avant tout l'efficacité avant la cohérence ou avant la rationalité. Et de fait, petit à petit, s'élabore une espèce de théorie et de philosophie du temps quasiment, et même de la causalité, qu'on peut gloser a posteriori. Alors qu'avant tout, j'essaie juste de faire des gags qui sont marrants et puis de coller les épisodes les uns aux autres. Mais là, il y en a 180 aujourd'hui des épisodes. Et en fait, il y a cette idée que les hommes préhistoriques du passé savaient déjà entièrement ce qui allait advenir. Et en même temps, il n'y a pas de... En fait, c'est l'idée que le libre arbitre n'existe pas réellement. Il n'y a pas de possibilité d'infléchir sur le futur, puisque le futur est déjà présent et ils en ont déjà une conscience univoque. Donc, il y a une ligne temporelle fixe de laquelle on ne peut pas varier, quoi qu'il se passe. Donc, c'est une espèce de tragique aussi particulier, un peu drôle. Et c'est un peu comme, vous savez, ces légendes. Il y a plein de civilisations comme ça où on dit que l'enfant, à sa naissance, est omniscient. C'est déjà que l'enfant est un super sage. C'est tout du passé, tout du présent et tout du futur. Et puis, alors, parfois, c'est un ange. Parfois, c'est une créature comme ça, un peu mythique, qui vient vers lui et qui... par une opération, le doigt sur le front, sur la bouche, lui fait tout oublier. Et l'enfant doit réapprendre tout à zéro. Mais en fait, les personnages à gros nez, à gros yeux de Silex and the City, eh ben, ils ont une espèce de conscience, comme ça, des flash-forward de ce qui va arriver. Et pourtant, ça leur sert à rien. Ils sont toujours aussi cons.
Alors c'est presque un appel d'arriver à développer un tel argumentaire autour d'une série. C'est presque un appel à thèse hein, pour travailler là-dessus, justement. Sur les...
J'ai plein d'arguments pour les thésards qui
n'ont pas
envie,
hein,
qu'on pas envie endroit, de se décarcasser
si,
trop.
Si vous avez un message, ouais. C'est le moment. qu'est-ce qui, selon vous, explique le succès en fait, de la série ? Pourquoi est-ce que ça a marché si bien ?
Parce que les profs regardent Arte.
Veut venir chez vous faire des doublages, etc. Oui, mais ça ne se limite pas aux profs, puisqu'on a des hommes politiques qui se battent pour venir faire des doublages.
Oui, oui, non, mais parce qu'Arte est une super chaîne, hein, et puis aussi parce que c'est quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que l'animation pour adultes, politique, danse, référentielle comme ça, à une heure de grande écoute, avec des supers audiences, finalement, eh ben. Bah, ça s'était pas vu depuis Belle Lurette, et je dirais même si on veut comparer avec les Shadok ou les choses comme ça, c'est encore autre chose. Donc il y a une singularité qui était nouvelle, qui correspondait probablement à un air du temps, et effectivement maintenant ça a pignon sur rue au bout de la cinquième saison que je suis en train de préparer. Il y a des gens, plein de gens, souvent d'ailleurs issus du milieu des médias ou de la politique, c'est souvent eux qui sollicitent d'être présents, et ensuite que ce soit des scientifiques, des chanteurs, des peintres, des écrivains, c'est toujours marrant de les voir mis en scène dans des rôles plus ou moins proches de leur propre existence réelle.
Alors, à présent, j'aimerais peut-être passer à un deuxième extrait, deuxième et dernier extrait, qui ne va pas manquer de vous rappeler quelques souvenirs.
Nous sommes en moins 40 000 avant Jésus-Christ. Toute la planète semble obéir aux lois de la sélection naturelle. Toute ? Non. Une vallée résiste encore et toujours à l'évolution.
Papa, est-ce que chaque fois que je vais voir une exposition de Raon, tu vas te sentir obligé de m'accompagner ?
Tu es ma fille, je ne trouve pas anormal d'être attentif à tes fréquentations. C'est pas parce que ton Raon de la pétaudière expose chez Lascaux qu'il faut lui donner carte blanche non plus.
Oh, regarde ! Il y a une bagarre à l'entrée.
C'est une honte ! Un scandale ! Blasphème ! Blasphème !
Mais qu'est-ce qui se passe enfin?
C'est à cause de la nouvelle saison de la galerie, ça fait toute une affaire. Ils exposent 12 caricatures de mammouths et les religieux n'apprécient pas du tout.
Blasphème!
Mais enfin, c'est absurde. C'est juste de l'art, voyons.
De l'art? C'est un manque de respect, monsieur. Vous savez très bien qu'il est interdit de représenter le mammouth.
On n'a rien contre les croyants, hein. Mais il y a 60 millions d'années, nos ancêtres se sont battus pour avoir le droit de caricaturer les dinosaures. C'est pas aujourd'hui qu'on va se laisser censurer.
Mais comme par hasard, on ne voit jamais de caricature des adorateurs du soleil, des arbres ou des diplodocus. Alors moi, je suis désolé, mais je trouve qu'entre le mammouth et le diplodocus, il y a deux poids, deux mesures.
Ah, mais ils nous emmerdent, ceux-là. Faites voir vos caricatures. Ah ouais, c'est vrai que ce n'est pas de très très bon goût quand même.
Je dis pas le contraire, mais qu'est-ce que vous faites de la liberté d'expression? Si on doit prendre en compte tous les polythéismes, dès qu'on se met à faire une œuvre d'art, on pourra plus rien faire. Pour chaque buisson, chaque caillou, on va trouver un panthéiste qui va crier au blasphème.
C'est vrai, si ça tenait qu'à moi, on inventerait le monothéisme. Comme ça au moins, on serait cadré.
Tu ferais ça, papa? Mais ce serait génial.
Ah ça, monsieur Dotcom, vous seriez un bienfaiteur de l'humanité.
Bah enfin, qu'est-ce qui t'a pris de dire un truc pareil, Blog? Tu connais absolument rien en religion?
Ouais, bah enfin bon, peut-être. Mais en attendant, j'ai promis à Webb et à Rahan de trouver quelque chose pour calmer les intégristes d'ici la fin de l'expo.
Fais voir où tu en es. C'est censé être quoi, là?
Bah, je sais pas, je réfléchis à un logo sympa pour un monothéisme, un truc accrocheur, une marque, quoi.
Mais mon pauvre Blog, c'est complètement nul. Comment tu veux espérer lancer une religion avec un graphisme digne d'un enfant de 5 ans? Ce dont tu as besoin, c'est de faire rêver avec une histoire. Par exemple, un mec qui marcherait sur l'eau.
Mais enfin, spam, tous les amphibiens font ce genre de truc.
Dis que sa mère est vierge, alors.
C'est ce qu'essaie de faire gommer tous les ovipares.
Ou alors raconte qu'il est mort et que juste après, il a ressuscité.
Les amibes et les bactéries passent leur temps à faire ça.
C'est casse-pied à la fin.
Excusez-moi de vous déranger, mais ma femme est sur le point d'accoucher et nous n'avons nulle part pour passer la nuit. Vous n'auriez pas une étable pour abriter ce pauvre petit erectus?
Une étable? Bah non, on n'a pas encore inventé l'élevage. Mais Blog, tu penses à ce que je pense?
Erectus revient, Erectus revient, Erectus revient parmi les tiens, la 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 la.
Alors encore une fois, c'est moi qui joue Joseph, c'est effrayant. Hein.
Bah, vous avez pris tous les
rares épisodes où je parle.
Les bons passages, oui. Alors terrible contemporanéité, terrible actualité plutôt, avec cet extrait qu'on vient d'entendre, puisqu'il y avait donc les deux personnages qui sont responsables de la galerie, qui se font malmener par les religieux, qui sont représentés sous les traits de Cabu et Luz. Vous avez écrit ça avant, après?
Mais oui, c'est complètement... C'est étonnant, il y a une préscience dans l'épisode aussi, parce que ça a été, le texte vraiment a été écrit en 2010. C'est il y a très longtemps. Ouais, c'est étonnant d'ailleurs d'avoir ces dessinateurs qui sont venus jouer leurs propres personnages qui ont été enregistrés à ce moment-là. Et puis en fait, on se rend compte que, bien sûr, il n'y a rien de neuf sous le soleil, bien sûr que tout était déjà latent et en puissance dans la situation. Et c'est ça, quoi, en fait. Rien n'est très surprenant. C'est ce qu'on disait, le futur est déjà là.
Encore un écrasement du temps, de la temporalité dans cette saison. On va regarder plus attentivement, peut-être que d'autres événements à venir seront dans...
Je vous donne les chiffres du loto dans un des épisodes, mais il faut que vous retapiez tout, hein, avec un crayon et un papier.
On le fera, même sans le loto. Alors vous avez été aussi dessinateur de presse, puisque vous avez commencé votre carrière en 98 au Nouvel Obs, vous êtes passé par Marianne, vous avez fait jusqu'en 2012 des dessins de presse. Qu'est-ce que vous en avez retiré de cette expérience en tant que telle? Et puis, est-ce que ça a servi peut-être de propédeutique à quelque chose de plus construit, comme la BD, quelque chose de plus déconnecté de l'actualité, une création plus...
Oui, parce que la BD, c'est une autre écriture, et moi je sais que ça m'a permis de dessiner quotidiennement et d'avoir une espèce d'injonction, de production, d'attention au monde, parce que voilà, travailler sur l'actu pour parfois des quotidiens pendant une ou deux années, et la plupart du temps pour des hebdomadaires, ça, c'était une espèce de qui-vive permanent. Ça m'a beaucoup nourri, ça a musclé énormément mon travail. C'était une gymnastique intellectuelle permanente. Et puis à un moment, on a envie de sortir de cette immédiateté, du côté de la date de péremption qui fatalement est attachée à un dessin qui fait référence à un événement qui sombre assez vite dans l'oubli la plupart du temps. Donc de pouvoir parler de sujets de société, quand même du monde qui nous entoure, c'est ça qui m'a quand même structuré, mais au plus long cours, c'est ça qui a déterminé le passage du dessin de presse à la BD.
Et avec quel succès, comme on le sait. Justement, qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter à présent? Quels sont vos projets? Donc, vous avez fait, donc vous continuez encore l'élaboration de Silex and the City à la. Alors, est-ce que vous écrivez encore des BD? Vous vous concentrez seulement sur les émissions?
Il y a toujours la série, la saison 5 qu'on est en train de produire en ce moment. Là, les albums de bande dessinée qui continuent, parce que je vais faire un tome 7 aussi. Et puis là, je vais reprendre, ce qui est assez rigolo, la série Lucky Luke, assez officiellement, parce que je reprends en tant que scénariste officiel la série telle qu'elle existe depuis 70 ans. Donc voilà, à partir de cet automne, on reprend les rênes de ça avec un autre dessinateur. Ça va être plutôt marrant.
Une idée, combien d'épisodes, qu'est-ce que vous savez déjà un petit peu?
Ensuite, on se projette vers l'avenir, on va voir ce que ça va donner. Là, on fait un album, ce sera un album après l'autre. Mais voilà, si tous les deux ans, on peut faire un petit Lucky Luke, ça changera un peu de mes hommes en peau de bête. Hein.
Oui, on attend de voir ça. Mmh. Et alors, vous parliez de projets peut-être un peu plus tout à l'heure télévisuels, non?
Voilà, ou de télé ou de cinéma, c'est-à-dire à vrai dire l'écriture de la comédie en bande dessinée ou en dessin animé amène aussi assez naturellement à une écriture de comédie au sens plus large, c'est-à-dire à la fois pour des films d'animation, toujours avec des optiques de dessin pour adultes, un peu, voilà, souvent politiques et sociaux, mais aussi, aussi bien des comédies en live avec des vrais morceaux d'acteurs à l'intérieur. Oui, il y a pas mal de trucs en route, donc je pense que c'est un peu l'horizon à venir.
On attend de voir ça en tout cas. Jules, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation.
Merci.
Au micro de Transistor pour cette journée de la radio. Nous allons à présent passer à notre nouvelle chronique en partenariat avec l'association des anciens de l'école sur l'actualité du réseau et des anciens, quelques mots. Donc demain, samedi 2 avril, ce n'est pas une blague hein, du 1er avril, contrairement à certaines choses qui ont pu être dites sur ce micro aujourd'hui. L'ENS accueille dans ses murs Des Papous dans la tête, émission ô combien connue de France Culture, qui s'installe donc à 19h dans l'Amphimérieux, grâce au concours d'Adrienne Estrada, Léonard Dekens et Marjolaine Fourton, avec le soutien financier de l'association des anciens. Donc tout le monde est convié demain pour écouter cette émission en direct qui sera rediffusée peu de temps après. Samedi 9 avril également, les anciens vous convient à l'Assemblée Générale qui se tiendra je ne sais plus où. Sylvie Martin, probablement à Lyon, hein, on ne va pas la faire à Tourcoing. Sylvie Martin, la vice-présidente des études, interviendra sur l'actualité des projets de l'école. Ne me faites pas rire dans le public, s'il vous plaît. Et les projets donc à venir de l'école, ainsi qu'une présentation du bilan moral et financier, qui sont toujours des choses très fascinantes d'une association, et le renouvellement du conseil d'administration, qui s'achèvera partie très agréable, un peu convivial, où tout le monde est une fois encore invité. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à vous abonner donc sur la page Facebook, à suivre leur compte Twitter, ou même vous connecter à leur page LinkedIn. Et oui, car on a beau être ancien, on n'en est pas pour le moins ultra connecté. Quant à moi, je vous dis à dans deux semaines pour une prochaine émission qui ne sera pas en direct, mais diffusée sur notre site internet, avec donc toujours un nouveau numéro de Il y a une vie après normal. Ce sera cette fois en compagnie de Gaspard Koenig, président du think tank Génération Libre. À bientôt. Et il faut que je continue de parler apparemment, puisque ce sont les saucés du direct. Qu'est-ce que je peux vous dire, Jules? Alors, est-ce que vous avez prévu de venir à ce pot?
Est-ce que vous avez prévu de remplir ce blanc? Alors oui, justement,
oui,
j'avais un truc à dire.
Très je vous en prie, déclaration officielle de Jules.
Non, voilà, mais en fait, vous savez que, donc oui, on parle de Néandertal Sup dans Silex and the City, mais effectivement, ça m'a beaucoup nourri, quoi. Il y a tout un parcours de grandes écoles. Entre pyrotechnique, Sciences Po, PEAUX et Néandertal Sup. Donc je pense que voilà, il y a toujours profit aux grandes écoles, même si c'est pour végéter dans un âge de pierre sinistre.
D'accord, excellent. On ira aussi, merci de m'avoir filé un sacré coup de main. Je vais à présent annoncer la suite du programme, puisque la journée ne s'arrête pas après Il y a une vie après normal. Il y a une vie après Il y a une vie après normal. Vous voyez, on pourrait continuer longtemps sur cette chaîne. Nous avons donc l'hameçon en compagnie de Sirius pour une nouvelle émission.